Bonsoir à tous. Nous allons aujourd'hui traiter de la théorie des radio bursts, en fait des FRB, des sursauts radio rapides, comme nous avons la dernière séance des crises d'observation. Donc voici les contraintes qui sont dues aux observations. Donc je rappelle un petit peu ce que nous avons découvert, c'est qu'en 2007, Lorimer a découvert ce sursaut qui était le premier. Et nous avons découvert que ces sursauts étaient extragalactiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mesure de dispersion. Donc, je vous rappelle ici le diagramme temps-fréquence. Donc, ces sursauts arrivent à haute fréquence en premier, puis ensuite, ils arrivent plus tard à basse fréquence. Vous voyez que l'échelle, c'est une seconde ici à peu près. Donc, 0,1 seconde. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on traverse une ligne de visée qui contient des particules chargées, les fréquences hautes, les bleues ici, arrivent plus vite. La vitesse de la lumière est plus forte parce qu'il y a la diffusion par les particules chargées. Et les longueurs d'onde plus basses, en rouge ici, arrivent plus tard. Donc on voit cette mesure de dispersion qui est proportionnelle finalement à la distance parcourue et donc qui nous donne l'information que toutes ces sources, ces sursauts inconnus, sont extragalactiques, sont en dehors de la galaxie. Ils sont d'ailleurs distribués de façon isotrope dans le ciel. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a découvert très récemment, lorsqu'on a compris que c'était vraiment une réalité, on a découvert à peu près 800, on va peut-être en découvrir encore plus, des centaines, et on a découvert 24 répéteurs. La plupart, en fait, il y a un sursaut et rien du tout qui suit, donc ce n'est pas régulier comme les pulsars, mais il y a 24 répéteurs. Il y a 19 qui ont pu être identifiés par des galaxies hautes. Ça, c'est plus compliqué, car il faut, en radioastronomie, avoir une interférométrie de longue base, qu'on appelle VLBI, qui prend énormément de temps. Donc, on a identifié 19 galaxies avec précision. Et il y en a un objet qui est dans la Voie lactée, qui est très utile, car il est très proche, il nous permet d'avoir beaucoup de renseignements. Donc, ça, c'est ce qu'on a appris. Et puis, on a appris que c'était des signaux très forts. Le flux ici atteint un Jansky ou plus, même des dizaines de Jansky, ce qui est beaucoup plus fort que toutes les sources radio de la Voie lactée. Alors, ces sources sont très fortes, donc ça veut dire que la puissance est due à un rayonnement cohérent. On va décrire un peu ce que ça veut dire. On a une très forte température de brillance. On sait aussi que la durée de ces radio bursts est de 5 millisecondes ou moins, 1 milliseconde. Donc, lorsqu'on sait que la variabilité d'une source est liée à la taille de cette source, ça veut dire que ces objets sont très compacts, donc étoiles à neutrons ou trous noirs, on est tout de suite orienté. Et puis, il y en a qui sont vraiment cataclysmiques, qui se détruisent leur objet, une supernovae, une fusion d'objets compacts, ou alors d'autres qui sont de grande durée de vie, donc peut-être des étoiles à neutrons à fort champ magnétique, des magnétars, etc. Donc voici un petit peu le résumé de ce qu'on a appris au point de vue observation. Alors, les propositions était au début un petit peu fantaisiste. On avait une qui disait, eh bien, ma foi, on sait que c'est des puissances énormes, mais si on suppose que le rayonnement est isotrope, il va être en fait réduit à un certain G, un beaming, donc il se pourrait aussi que des extraterrestres nous envoient un beam juste sur la Terre pour avoir plus d'énergie. Bon, ça a été écrit en effet, mais ça a été évidemment éliminé très vite. Les étoiles dans notre propre galaxie, lorsqu'on n'avait pas encore assez d'informations pour savoir que c'était extragalactique, ça a été émis. Certaines étoiles auraient pu avoir des éjections, des flares. Ça a été assez vite éliminé parce qu'en effet, la mesure de dispersion nous a donné des distances extragalactiques. Et même si c'était obtenu avec une très très forte densité d'électronique dans certaines régions très ionisées, comme la région H2, à ce moment-là, on aurait eu une épaisseur optique trop grande, on n'aurait pas vu les objets. Donc ces deux, c'était vraiment éliminé assez rapidement. Et puis, il reste évidemment les propositions extragalactiques. Donc, soit des fusions d'objets comme celle-ci, qui sont deux étoiles à neutrons, qui, comme vous le voyez, émettent des ondes gravitationnelles avant de fusionner, soit des objets durables. Alors, j'ai parlé de température de brillance, donc qui est liée au flux. Donc, en radioastronomie, on fait toujours l'approximation de Rayleigh-Jeans, c'est-à-dire on part de l'émission de Planck, la loi de Planck, qui est en E de h nu sur kT moins 1. Vous voyez que h nu est très très faible devant kT, on a des très fortes températures de brillance ici. Donc on peut très bien éliminer ceci par approximation et on trouve que cette approximation de Rayleigh-Jeans nous donne que le flux est proportionnel à la température de brillance et à la fréquence au carré ou inversement à la longueur d'onde au carré. Il y a aussi évidemment un beaming. Ces objets très puissants, ce sont des jets ultra-relativistes, donc les particules vont à une vitesse très grande devant C. Le facteur de Lorentz ici, dans l'inverse, est égal à racine carrée d'1 moins V2 sur C2, est très grand. Le gamma peut être égal à 100, 1000, etc. Donc c'est vraiment des particules ultra-relativistes. Alors il y a deux genres de beaming. Il y en a un qui est dû au fait que même si vous avez par exemple un rayonnement synchrotron, comme il est indiqué dans ce schéma, vous avez, même si l'électron émet de façon isotrope dans son référentiel au repos, lorsque l'observateur le voit dans le référentiel au repos de l'observateur, vous voyez un beam qui est très très mince, comme un petit crayon, si vous voulez, et l'angle ici du cône, c'est sur gamma. Donc si gamma égale à 10 ou 100, vous voyez que c'est un très petit angle. Et puis il y a aussi le beaming dû au fait que vous pouvez avoir un ensemble de paquets d'électrons qui sont émis dans un seul faisceau. Donc de toute façon, vous avez une région émettrice qui va être assez petite, même si gamma est très grand, et vous pouvez calculer en fait quel va être l'ordre de grandeur de la température de brillance si la source est de l'ordre du Jansky, et même plus. Donc vous tombez sur des facteurs qui sont 10 puissance 36 Kelvin. Même si vous divisez par gamma 2, gamma égale 100 ou autre, vous allez trouver quelque chose d'énorme, supérieur à 10 puissance 30. Donc ça veut dire qu'on est au-delà de la température limite, même pour un rayonnement synchrotron. Vous savez que les électrons ne peuvent pas aller au-dessus de cette brillance de température de 10 puissance 12 K. Pourquoi ? C'est la limite à laquelle les électrons vont rencontrer leur propre rayonnement par un Compton inverse et se refroidir automatiquement. Donc là, il y a une certaine catastrophe ici. Donc on sait que par un rayonnement incohérent, on ne pourra jamais dépasser cette température. Donc fatalement, l'émission va être cohérente. On a aussi montré déjà ce diagramme, qui est un diagramme en fonction de la fréquence et la luminosité de l'objet. Lorsque on est dans le Rayleigh Jeans, on a bien la luminosité qui est en U2T, comme je viens de montrer dans la dernière slide. Donc vous voyez qu'ici, vous avez nu au carré, ici, vous avez une température constante. Ici, c'est 10 puissance 12, puissance 24, 36. Donc, c'est toutes les températures correspondantes à tous ces objets. Ici, nous avons les pulsars. On a parlé aussi de RAT, qui sont des pulsars, mais avec période très irrégulière. Et puis, tous les sursauts rapides, les FRB, sont ici. Ils sont très, très lumineux, de façon intrinsèque, même par rapport aux pulsars. On a trouvé quand même des objets comme celui dans la Voie lactée, et puis celui dans Messier 81, qui est une galaxie proche, qui sont un peu intermédiaires, car ils sont plus proches, on peut les voir. Par contre, tous ceux qui sont vraiment très loin, extragalactiques, sont bien au-dessus des pulsars. Et vous voyez que la température qui correspond à ces FRB, c'est 10 puissance 36 K, comme on venait de le voir. Donc c'est vraiment, ça montre bien que tous, sans nul doute, sont en luminosité un rayonnement cohérent. Alors qu'est-ce que ça veut dire cohérent ? Ça veut dire que toutes les particules qui vont émettre un rayonnement sont en phase, l'émettent au même moment. C'est un peu comme l'effet laser ou l'effet maser, vous avez une émission stimulée et non pas une émission incohérente. Alors ici, le schéma serait celui-ci pour incohérent, c'est-à-dire que les phases de la sinusoïde ne sont pas en phase, hein, précisément, et donc elles vont s'annuler, interférer, et un petit peu comme une marche au hasard, vous allez avoir une somme qui va être non pas en n, mais en racine de n, et l'énergie qui est le champ au carré, va être en N2 pour une émission cohérente. Alors cohérente, c'est que vous sommez, tous sont en phase, donc s'il y a N particules, l'émission, le champ E sera en N et l'énergie en N au carré. Donc vous avez quelque chose de très, évidemment N ce sont des nombres énormes, donc vous avez, lorsque vous avez une émission stimulée, vous avez une énergie bien plus grande. C'est comme ça qu'on peut atteindre les températures de brillance que l'on a vues. Alors, vous avez plusieurs façons d'émettre ces émissions cohérentes. Par exemple, vous aurez toujours un petit peu ce schéma donc d'un objet très compact, mettons étoile à neutrons ici, avec un champ magnétique très fort. On va voir que c'est très important d'avoir ce champ magnétique. Vous avez un certain nombre, un dipôle, en fait, de champ magnétique. Vous avez un certain nombre de lignes de champ qui sont fermées. Et puis, l'émission des particules chargées va se faire par ces lignes qui sont ouvertes. Donc on appelle ce rang le cône d'émission ici. On a une calotte polaire qui va émettre toutes les particules. Alors, comme d'habitude, ces étoiles à neutrons qui tournent autour d'un axe qui est différent de l'axe magnétique. On a un certain angle alpha. On a pu regarder statistiquement sur toutes les pulsars observées. Cet alpha, il est de l'ordre de 30, 45, jusqu'à même 90 degrés. Donc, ce n'est pas un petit angle, c'est un assez grand angle. Et vous avez des lignes de champ qui sont relativement courbes. Donc, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir un champ électrique parallèle au champ B, qui va être, alors par un mécanisme à voir, qui va être déclenché par peut-être une reconnexion magnétique ou un autre phénomène énergétique, peut-être un tremblement de terre de l'étoile à neutrons, qui va donner une grande énergie, donc un champ électrique parallèle à ce champ B. Et dans ces conditions, vous avez une émission de courbure du champ. Les particules suivent le champ B et elles sont continuellement accélérées par le champ électrique parallèle à leur trajectoire. Alors c'est grâce à ce champ électrique, d'ailleurs, qu'on peut avoir une cohérence, car normalement, les électrons perdent leur énergie en rayonnant, mais ce champ électrique leur maintient leur énergie. Donc ce rayon de cohérence, on peut le calculer, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il est toujours inférieur à ce gamma lambda. Comme on est en radioastronomie, le lambda est très grand. Et le gamma aussi, on a vu, le facteur de Lorentz, c'est de l'ordre de 100, 1000 et même encore plus. Donc la puissance cohérente, est-ce qu'elle va être suffisante? On a fait quelques calculs de rayonnement de courbure. Alors il faut un champ très fort. On a vu que pour les pulsars, le champ moyen était de l'ordre de 10 puissance 12 Gauss, ce qui est déjà faramineux lorsqu'on est sur Terre. Mais pour ces étoiles à neutrons très magnétiques, qu'on appelle magnétars, on a des champs magnétiques supérieurs à 10 puissance 14. Et c'est ça qui va être possible, qui va rendre possible l'accélération cohérente de ces particules. Quand on calcule un peu à quelle vitesse ces particules sont accélérées, c'est assez impressionnant. Vous voyez que la longueur d'accélération, à partir d'une vitesse zéro, c'est une fraction de centimètre. Donc en 10-2 centimètres. Comme ces particules vont à une vitesse C, il faut très peu de temps, 10-11 secondes, pour les accélérer. Donc c'est pratiquement instantané, vous avez une accélération instantanée. Et vous voyez un petit peu qu'on va pouvoir avoir des paquets de particules qui vont être stimulées en même temps. Donc ce qui va dominer, c'est une puissance de rayonnement de courbure cohérent en n au carré et non pas du synchrotron incohérent. Alors, ce qui a été calculé ici par Cooper et Vigers, par exemple, en fonction de la période de rotation, en fonction de la courbure de la ligne de champ auquel on fait référence ici, vous voyez que selon la luminosité des FRB qui sont les plus lumineuses, ou les pulsars, ou bien même les intermédiaires ici, on y arrive avec une certaine courbure, évidemment, et il faut que le champ B à la surface soit très grand. Donc c'est pour les grands champs magnétiques de surface, et il faudra rester sans doute près de la surface pour avoir ces champs, et on ne pourra certainement pas avoir ce rayonnement et ces sursauts très loin de l'étoile. Donc ces propositions qui sont pour l'instant des hypothèses, on va voir si elles sont vérifiées, pour les propositions extragalactiques, sont les fusions donc d'étoiles à neutrons. Alors ici, il y a l'effondrement aussi d'une étoile à neutrons qui a été proposé d'abord. Je vais le décrire. Pourquoi l'étoile à neutrons s'effondre en trou noir? Eh bien, lorsqu'elle perd sa rotation, elle n'a plus assez de force centrifuge et elle va perdre son support de rotation cinétique. Donc la fusion, ou alors des sursauts, là ce sont des phénomènes uniques, et puis pour des phénomènes qui se répètent, donc les magnétars, comme cette étoile à neutrons avec un champ très très fort, supérieur à 10 puissance 14, qui peut donner plusieurs pulses et puis avoir une durée de vie peut-être 1000 ans, 10 000 ans, etc. Alors le blitzar, justement, qui a été un de ses premières propositions par Falker et Zola en 2014, c'est une étoile à neutrons. Alors pourquoi elle se crée, même si elle a une grande masse, elle ne devient pas trou noir tout de suite? C'est qu'elle est en rotation très très rapide. Donc la force centrifuge permet d'éviter qu'elle tombe tout de suite en trou noir. Il y a une certaine équation d'état qu'il faudrait connaître, on ne la connaît pas. C'est la densité moyenne en grammes par centimètre cube qu'il y a à l'intérieur de l'étoile à neutrons. On ne le connaît pas, on sait qu'en effet les neutrons sont dégénérés, mais il pourrait y avoir une purée de quarks au centre, et puis peut-être au bord, la gravité est un peu moindre, donc des neutrons, et puis des particules chargées qui sortent. Donc selon cette densité-là, vous avez plusieurs courbes ici, oméga. Alors soit elles ne tournent pas du tout, soit elles tournent au maximum à la fréquence de rotation angulaire qui est keplérienne, qu'on appelle oméga k. Keplérien, ça veut dire simplement que la force de gravité qui rappelle les particules autour, là, est fonction de la masse de l'étoile. La force de gravité, c'est donc Gm sur R2. Et puis, elle est égale à la force centrifuge. Donc, on a exactement équilibre. Évidemment, si vous faites tourner plus, vous allez éclater l'étoile. Donc, ça, c'est la zone interdite. C'est oméga plus grand qu'oméga k. Et puis, toutes les petites courbes de différentes couleurs, c'est une fraction de cette rotation keplérienne. Alors, vous voyez que vous avez des trajectoires en fonction de la masse de l'étoile. Alors, par exemple, 2,1 masse solaire. Lorsque elle va, par rayonnement des particules dans le champ magnétique, elle va perdre un peu son énergie cinétique. Son spin va diminuer, on appelle un spin down, si vous voulez. Et donc, elle va arriver jusqu'à oméga égale 0. Et elle ne sera pas encore dans la zone très instable qui se trouve ici, où vous n'arrivez pas à une étoile à neutrons à la fin, mais vous arrivez à un trou noir. Donc, c'est ce blizzard qui va arriver sans doute en millisecondes et qui va représenter peut-être un sursaut radio énorme. Et c'était ça l'hypothèse de Falke et Rezzola. Donc peut-être seulement 3% des supernovées qui sont devenues une étoile à neutrons auront ce destin. Alors on aimerait savoir si les FRB sont dus à des étoiles jeunes ou à une population jeune d'étoiles ou à une population assez âgée. Il y a deux exemples, on a les deux exemples les plus proches, excusez-moi, qui sont le sursaut gamma ray, le soft gamma ray repeater, en fait, un sursaut gamma, mais qui est une supernova due à une étoile jeune, massive, qui vient d'exploser en supernova depuis 10 ou 16 000 ans, en fait. Et celle-là est dans notre galaxie, en effet, dans une région de formation d'étoiles récente. Par contre, dans Messier 81, on a découvert, grâce au VLBI, on a découvert le FRB coïncider à un amas globulaire d'étoiles très vieilles, relativement loin du centre de la galaxie, où il n'y a absolument aucune étoile depuis des milliards d'années. Donc on voit que les deux existent. On ne sait pas exactement en quelle proportion. On n'a pas assez encore de galaxies hôtes. On en a 19, on a vu, qui sont identifiées pour faire des statistiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les FRB, les data en bleu ici, et on va en regarder en fonction de la mesure de dispersion, qui est un indicateur de distance, pas exact, parce que vous pouvez avoir aussi une petite partie de la mesure de dispersion qui est due à la Voie lactée et puis à la galaxie hôte, que l'on ne connaît pas. La Voie lactée, on peut la corriger, mais la galaxie hôte, on ne peut pas. On pense qu'en les prenant tous ensemble, statistiquement, on va avoir un indicateur de distance et de redshift, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est comparer, en fonction du redshift, le taux de formation, l'histoire de formation d'étoiles de l'univers, qu'on appelle SFH ici, en violet, et vous voyez que ça ne correspond pas du tout. C'est-à-dire que statistiquement, sur les 1000 à peu près FRB qu'on a détectés, elles ne suivent pas l'histoire de la formation d'étoiles de l'univers, en fonction de la distance, du redshift ou de l'énergie, etc. Donc, vous voyez, cette simulation nous montre que ça ne suit pas les zones de formation d'étoiles récentes. Donc, ça ne peut être qu'une exception. Ce cas-là, la majeure partie n'est pas associée à des étoiles jeunes. Alors, on pourrait aussi regarder avec quel délai ils sont associés. On a essayé un délai de 3 ou 4 milliards d'années. Il n'y a que le délai de 10 milliards d'années qui marche pas mal. Vous voyez en bleu les sursauts rapides, FRB, et la courbe de formation d'étoiles de l'univers en prenant un délai de 10 milliards d'années, ou alors on accumule toutes les étoiles qui se sont formées, pas seulement les étoiles qui sont à un moment donné, et on voit que ça marche aussi. Donc finalement, il y a autant de FRB, même plus, qui sont associés à des vieilles populations d'étoiles et non pas à des jeunes. Donc ça nous indique quelque chose sur l'origine. Alors on voit que les FRB peuvent avoir aussi une utilité cosmologique, on l'a déjà souligné aussi, c'est qu'on doit pouvoir, puisqu'ils sont à grand redshift, connaître peut-être où sont toute la matière ordinaire manquante. Elle peut tracer par les lignes de visée. Est-ce que on sait que la matière ordinaire est sortie des galaxies, en fait, il n'y a que 20% au plus dans les galaxies. et qu'elle se retrouve dans l'espace intergalactique. On ne sait pas trop si elle se retrouve, cette matière ordinaire, juste autour des halos de matière noire ou bien dans les filaments cosmiques, etc. Donc on a fait des simulations. Alors pour l'instant, on n'a pas encore assez de FRB pour discriminer, mais en fonction du redshift, on peut savoir la probabilité que l'on aurait de les trouver autour de certains halos, de certaines masses, en fonction de leur masse, et surtout en faisant l'hypothèse que les baryons tracent la matière noire ou qu'elles ne le tracent pas, etc. Et en plus, alors ici, c'est juste l'illustration que l'on a deux informations. En fait, on a la mesure de dispersion qui décroît comme nu au carré, et puis aussi la largeur du pulse. Vous voyez qu'on a, pour les pulses qui sont encore plus lointains, on sait que les pulses sont élargis. Alors là, les modèles qui ont été faits sont les modèles un peu simples de galaxies en carré, si vous voulez, évidemment à une dimension, en trois dimensions ce serait un peu rond, donc on l'appelle top hat, par, ça ressemble, ou alors une matière noire, une matière visible qui est reliée à la matière noire, c'est-à-dire les halos qui ont la forme de narrow Frankenwhite, celle des simulations numériques, ou alors celle des vents galactiques. Il est possible que la matière ordinaire soit éjectée des galaxies et se retrouve au bord, justement, grâce à ces feedbacks d'AGN. Donc on voit que ces trois hypothèses nous donnent des probabilités d'EDN très différentes. Donc on va pouvoir, lorsqu'on aura plus de FRB, en déduire quel va être le contenu, où sont les baryons manquants dans l'univers. Donc, cette parenthèse mise à part, donc je reprends sur mes mécanismes de rayonnement. Ils sont de deux types. Le premier type, donc le rayonnement de courbure, donc on a déjà parlé, cohérent, et qui est dû au fait que vous avez des lignes de champ avec un champ électrique parallèle. Alors, à quoi cela est dû? Certains ont proposé une reconnexion magnétique. Reconnexion, ça veut dire que lorsque vous avez deux lignes de champ qui sont de signes opposés, alors vous voyez ici, on a un petit dessin où on a deux lignes de champ, ici un tube et un tube ici. Alors, ce n'est pas complètement opposé, mais au moins la projection selon l'axe X ici, vous voyez, et de signes opposés. Donc lorsque ces deux lignes de champ se rapprochent, vous allez avoir annulation de ces deux lignes et donc énormément d'énergie qui va être diffusée dans la direction X, donc qui va créer un champ E parallèle. Donc cette reconnexion magnétique est capable de donner l'énergie possible pour accélérer ces particules, avoir un champ dans la direction de l'observateur, là par exemple, en X. Donc vous pouvez avoir délimité une petite zone qui va être cohérente où toutes les particules vont avoir la même énergie et vont pouvoir émettre cette relation rayonnement de courbure cohérent. Il y a aussi un rayonnement Maser synchrotron, donc pas le synchrotron incohérent, mais cohérent. Donc un Maser, c'est comme un laser, vous avez une émission stimulée. Cette émission sera stimulée par des chocs ultra-relativistes. Alors, cette hypothèse a été émise par Metzger et al. Donc le schéma un petit peu simple, mais qui donne bien un peu l'idée, c'est que vous avez donc une magnétar, une étoile à neutrons très magnétique, avec les lignes de champ magnétiques ici, qui tourne. Alors évidemment, il y a un faisceau qui, de temps en temps, est émis, peut-être par une réorientation des neutrons dans l'étoile. Vous avez un faisceau de particules chargées qui est émis, et s'il ne rencontre rien dans son voisinage, il n'y aura absolument rien. Mais on peut penser qu'il y a une autre précédente éjection qui a eu lieu. Donc vous avez des vieux débris d'une précédente éjection. Et cette éjection rencontre cette enveloppe-là et fait un choc. C'est là qu'est le choc, qui est très violent. C'est ultra-relativiste. Vous avez un fort champ magnétique ici. Et un petit peu plus loin, donc ici on a une séparation, vous pouvez avoir une onde de choc qui va émettre en même temps, qui va faire émettre de façon stimulée les particules chargées avec une haute fréquence. Et puis comme progressivement, s'il y a plusieurs pulses, ils vont être freinés par les différentes enveloppes des vieux débris, vous allez avoir des fréquences de plus en plus basses. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on avait remarqué dans la précédente présentation que ce qu'on observait, c'était un effet de trombone triste, là, un effet de son qui baissait en fréquence. À chaque pulse émis, on a une fréquence plus basse. On appelle le sad trombone effect. Et donc, ça correspond exactement à ce qu'on observe. Donc ça, c'est un plus pour ce mécanisme-là. Voici un petit peu le mécanisme plus détaillé. à partir d'étoiles à neutrons, ce qui est l'émission cohérente, elle va se trouver juste à la milliseconde. On arrivera à rendre cohérent l'émission que pas plus qu'une milliseconde, puisque les particules chargées perdent leur énergie très très vite, hein, en nanoseconde, on va voir. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des zones un peu plus, c'est ce qu'on appelle un afterglow, c'est-à-dire quelque chose qui va être beaucoup plus longtemps. Alors, soit il va y avoir des éjectas d'une précédente supernovae, parce que cette magnétar, elle a été créée par une supernovae qui a émis de la matière, qui va être la matière électrique, qui va contribuer à la mesure de dispersion. Il y a certains qui vont contribuer aussi à la mesure de rotation, c'est la rotation Faraday du champ magnétique qui va nous permettre de mesurer ce champ, et on aura de rayonnement radio incohérent pendant des mois et des années. Donc ça, c'est très loin, et là, c'est le rapide qui a lieu très près de l'étoile et qui dure une milliseconde. Alors ce scénario a été calculé par Plotnikov et Sironi ici, et cela dépend de la force du champ magnétique, comme on pourrait bien entendu le penser. On va quantifier cette force par le paramètre sigma, qui est le paramètre de magnétisation. C'est juste le rapport entre l'énergie contenue dans le champ magnétique et l'énergie contenue dans les particules, c'est-à-dire l'énergie cinétique des particules. Lorsque ce rapport est plus grand qu'un, le champ magnétique domine l'énergie. Et cette simulation a été faite, par exemple, avec sigma égale 3. Vous voyez que là où il y a le choc, c'est ici, vous avez en effet un champ électrique qui, au départ, était 0, et vous avez déclenché ce champ électrique parallèle que l'on aimerait avoir dans le choc. C'est dû au choc. Et les particules qui ont une vitesse ux et uy, donc qui sont en giration dans le champ magnétique, ont en effet un gamma, un facteur de Lorentz très constant pendant un certain temps. Alors vous voyez, ce qu'il nous faut, c'est rendre, et là c'est le cas, on a rendu l'émission cohérente, c'est-à-dire pour sigma égale 3, on a un anneau complètement vide. On n'a pas tout ce qui est à l'intérieur. Par exemple, si la magnétisation n'est pas assez forte, 0,3, vous allez avoir des gammas inférieurs, donc toute une gamme de gammas, et donc les particules ne seront pas cohérentes, n'auront pas la même énergie pendant un certain temps. Donc ce mécanisme marche que si l'énergie est dominée par le champ magnétique, ça c'est pour rester cohérent. Donc ce qui est assez attirant dans ce processus, c'est qu'en effet, on a au début une fréquence qui est assez grande, puis les sursauts suivants sont à fréquence de plus en plus basse, donc on a bien la dérive vers les basses fréquences, et puis lorsqu'on regarde le temps d'émission est du même ordre que celui qui est observé, et puis on peut faire varier dans les simulations certains paramètres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une certaine gamme de paramètres qui marche très bien et qui peut expliquer les observations. Alors ces observations, on avait bien aussi vu la dernière fois qu'une fois corrigé de la dispersion, de la mesure de dispersion, c'est-à-dire chaque burst ici, chaque sursaut a un comportement fréquence qui est droit. Et celui-ci, par exemple, vous voyez qu'il y en a trois et la fréquence diminue d'un pulse à l'autre. On a bien cet effet de dérive vers les basses fréquences. Par contre, on a des exceptions. Alors là, on a un problème avec on a des exceptions, par exemple celui-là, qui est celui dans la Voie lactée, qu'on connaît bien. Eh bien, il y a deux pulses, hein, quelques 20 millisecondes, et puis on voit que la fréquence monte. Ça, c'est un trombone joyeux qui remonte, et c'est une exception, c'est assez rare. C'est pour ceux qui ont une durée de pulse plus longue. Ici, on a quelques-unes, mais c'est assez rare. Celui-ci est un répéteur aussi. Donc, il va falloir sans doute avoir un autre mécanisme. Alors, le deuxième mécanisme, est-ce qu'il va remplir... Alors là, je vais quand même préciser cette fameuse magnétar qui est dans la Voie lactée, hein, ça c'est les coordonnées dans la Voie lactée. La vue d'artiste montre bien qu'il pourrait y avoir des craquements dans la croûte de cette étoile à neutrons. Peut-être qu'on a supposé que c'était ces craquements qui pouvaient peut-être amener des sursauts dans l'énergie. Vous avez peut-être entendu la nouvelle qu'on a détecté des événements à 18 minutes de période, et on a pensé que peut-être c'était des magnétars qui tournaient et qui avaient ce genre de... qui tournaient assez faiblement, mais qui avaient des craquements. Donc ça peut être un mécanisme. Et puis, mais ils sont quand même très rares. En général, celui-ci émet en X et gamma. En général, les 29 autres magnétars connus n'émettent pas en radio. Alors il se pourrait qu'on en ait perdu. qu'on n'avait pas tous vus, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont semblables, comme ça, les pulsars anormaux, et que peu à peu, quand on essaie d'avoir une gamme plus grande en fréquence, on découvre. Alors en voici un qu'on a découvert relativement récemment après, en 2003, en rayons X, il n'y avait rien du tout. Puis tout d'un coup, il s'est mis à émettre assez fort. Et les caractéristiques d'émission nous montrent que c'est une magnétar, en fait. C'est un champ magnétique très fort, un âge récent, donc avec un spin-down très fort, c'est-à-dire lorsque le champ magnétique est fort, le rayonnement dans ce champ magnétique est aussi intense et donc fait diminuer le moment angulaire du spin de l'étoile. Alors, revenons à au deuxième mécanisme d'émission, qui est l'émission de courbure cohérent. Est-ce qu'on pourrait avoir des dérives de fréquence vers le bas et vers le haut? Alors, vers le bas, oui. Alors ici, je reprends toujours mon schéma d'étoiles à neutrons avec des lignes ouvertes de champ. Alors, vous voyez que lorsqu'on est près de l'étoile, les courbures, le rayon de courbure ici est beaucoup plus grand, enfin la courbure est plus grande, le rayon de courbure plus petit, que lorsqu'on est très loin. Donc on peut calculer le temps à laquelle, enfin le delta T, l'intervalle de temps entre les deux pulses que reçoit l'observateur s'il reçoit d'abord un puis deux. Alors le 1 aura une fréquence plus grande, puisque la fréquence est inversement proportionnelle au rayon de courbure, donc plus c'est courbé et plus la fréquence est grande. Donc ici, si on observe nu 1 d'abord et puis nu 2 après, on aura l'effet de descente observé. Et en effet, on a un delta T qui est, alors en supposant que les deux sont émis en même temps, le temps géométrique qu'on peut calculer ici nous dit qu'en effet, on aura le 2 juste après le 1. Donc on a bien l'effet descendant. Donc ça, c'est ce que faisait aussi l'effet Maser. Par contre, on peut avoir aussi, dans certains cas, des effets remontants. Alors ici, on a dessiné un petit peu la région polaire autour du champ B où sont émis les particules. Et vous voyez que la ligne de visée, lorsque l'étoile tourne autour d'oméga, elle va balayer un petit peu cette zone-là. Hein. C'est ce qu'on a reproduit ici. Donc quand on est près du cône, au centre du cône ici, on a une fréquence, une courbure très grande, une fréquence assez élevée. Donc vous voyez ici en fréquence, on va monter en fréquence dans cette direction et on va descendre ici. Donc on a descente dans ce côté et puis on a quand même quelques cas où on peut avoir une fréquence qui monte si on a des pulses différentes. Alors ça a été calculé, une statistique sur les delta T ici. Vous voyez que la plupart des delta T sont positifs, c'est-à-dire qu'on va descendre en fréquence. Mais pour certains cas, tout ce qui est en rouge au-dessous de zéro, on peut avoir un effet remontant. Donc c'est beaucoup mieux que le Maser synchrotron, puisqu'on peut avoir exactement ce qui est observé. Surtout pour les pulses qui ont une taille un peu plus grande, on peut avoir des remontants. Donc le champ E qui est émis, qui est requis, en fait, il est requis pour accélérer les particules, mais on peut calculer un petit peu, est-ce qu'on va avoir assez de temps de cohérence? Car le paquet qui rayonne très très vite, c'est de l'ordre de la nanoseconde, qu'on a déjà mentionné, et il nous faut un sursaut qui est de l'ordre de la milliseconde ou un peu plus, 1 milliseconde, 5 millisecondes. Donc il faudrait maintenir les particules à la même énergie. Or, elles en perdent, évidemment. Elles en perdent en rayonnant. Par exemple, la luminosité L, elles vont, dans un intervalle de temps dt, perdre L dt. Donc, il nous faudrait un champ E, où l'accélération du champ E est égale à le produit par E et puis V dt, l'intervalle produit ici. Et ceci est ce qui va faire perdre l'énergie, c'est-à-dire la dérivée de le facteur de Lorentz. Alors, si vous voulez qu'elle n'en perde pas, donc zéro, il faut équilibrer l'émission par l'énergie donnée par le champ électrique. Et en effet, on doit pouvoir y arriver. Alors ici, vous voyez qu'on a même séparé par ce champ les positrons qui sont rouges ici et les électrons en bleu. Mais ce champ électrique a été calculé et on peut y arriver. Alors par quel mécanisme? Par exemple, par la production d'ondes d'Alven. D'ondes d'Alven, c'est des instabilités magnétiques dans les lignes de champ. Vous voyez ces lignes de champ qui ont ces instabilités, qui produisent des minima de charge et des maxima de charge, donc des climps un petit peu. Et on a des instabilités à deux courants. Vous avez les électrons qui passent d'un côté et les positrons de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a des rouges qui sont positives et les bleus négatives. Et on peut avoir des agglomérations comme ça de charge qui vont créer ce qu'on cherche, c'est-à-dire le champ électrique là qui va produire l'émission cohérente pendant une milliseconde, qui va compenser la perte d'énergie par ce champ. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un effet de peigne. Ces étoiles à neutrons ne sont pas forcément isolées. Il y a peut-être des compagnons avec un plasma qui est un vent de particules chargées qui repousse la magnétosphère de l'étoile. Donc si vous avez trois petits paquets qui vont vous donner des sursauts ici, la ligne de visée étant là, vous en avez dans cette direction-là, vous veillez d'abord celui-ci, et puis peu à peu, lorsque le plasma aura replié même les lignes de champ, vous allez voir le troisième paquet avec des fréquences descendantes, et etc. Donc ça, c'était aussi un mécanisme qui a permis d'essayer d'expliquer ces fréquences qui sont descendantes. Alors c'est cette fameuse observation que ce mécanisme de courbure cohérente marche très bien. Ici, vous avez des données qui sont les points, avec plusieurs sursauts rapides FRB, et les modèles sont les courbes ici, qui montrent à peu près ce qu'il faut. On a pu aussi cartographier les fréquences de courbure. Ici, vous avez X et Y, donc dans l'espace, l'étoile à neutrons serait ici. Et vous voyez en couleur la fréquence, ou selon que le champ est dipolaire ou quadripolaire, ici la fréquence toujours. Et on peut aussi cartographier le champ électrique qu'il faudrait pour arriver à faire des sursauts de milliseconde. On ne sait pas encore l'origine, mais on sait celui qu'il nous faut pour égaliser la perte d'énergie ici. Et vous voyez qu'il faut un champ E qui décroît en 1 sur R2. Ici, c'est la distance à l'étoile. Et en couleur, vous avez le champ électrique qui décroît. Donc ici, il est très fort et puis il décroît. Donc on sait ce qu'il nous faut. Et donc, si l'on observe ces sursauts, on va pouvoir en déduire peut-être la source. C'est ça le but. Donc tous les mécanismes que je vous ai montrés ici sont quand même dérivés un peu de ce qu'on connaît sur les pulsars. On a toujours le même schéma de dipôles, de champs dipolaires, avec des lignes de champs qui sont ouvertes et qui permettent aux particules d'échapper et d'avoir toute l'énergie rayonnée. Et on est habitué pour les pulsars à avoir ces profils qui sont parfois donc triples ou parfois multiples. Mais triples, on a un cœur et puis un cône. Et ça correspond en fait à la ligne de visée qui traverse soit le cœur ici, soit le cône. Et on a en effet un rayonnement de courbure. Il a été calculé récemment par Bazieu et al., qui est très fort. Cette émission est cohérente dans ces lignes de champ-là, grâce à cette courbure-là. Donc ce mécanisme est connu quand même pour les pulsars, et on peut comparer avec ce qui se passe avec les sursauts FRB. Et en effet, ça correspond très bien à ce que l'on voit dans les sursauts. Donc c'est un petit peu quelque chose de très parallèle à ce qu'on connaît pour les pulsars, mais très près de l'étoile. Donc si je résume ce qu'on a appris sur ce mécanisme-là, donc ce rayonnement de courbure qui est cohérent, vous voyez ici, à une courbure très forte, on a une fréquence plus forte qu'à une courbure plus faible. On arrive à reproduire les FRB qui descendent, avec des sous-plus qui descendent de fréquence, mais de temps en temps, ils remontent. Donc là, ça marche très bien. Et l'énergie, le champ électrique qui est lié au mécanisme de déclenchement, on aimerait le connaître justement en faisant des simulations numériques qui représentent les sursauts. Donc je reviens un petit peu à nos observations de sursauts rapides identifiés à des galaxies pour voir un petit peu si on peut avoir des contraintes. Donc celui-ci d'un Messier 81 que j'ai déjà mentionné, qui correspond à une vieille population. Alors, quel est-il ? Eh bien, on a trouvé des variabilités très fortes, 50 nanosecondes, ce qui veut dire que sans doute la région émettrice est très petite, très proche de l'étoile à neutrons. On a pu déterminer quel était le champ magnétique, très fort, donc une magnétar probablement, avec une période ici de 0,2 secondes. Donc, on a pu tracer dans le diagramme période et puis le spin-down, c'est-à-dire le ralentissement du spin ici, que uniquement cette zone-là était permise. Donc ça nous dit qu'il est possible d'avoir un magnétar, peut-être avec une fusion d'objets compacts qui sont très anciens, comme les naines blanches. Donc une fusion de naines blanches, par exemple, pourrait se retrouver dans des amas globulaires, et donc dans des galaxies elliptiques qui sont très fréquentes, on pourrait avoir énormément de sursauts radio qui viendraient de galaxies elliptiques où il n'y a plus aucune formation d'étoiles depuis très longtemps. On a aussi des contraintes en fonction, ici vous voyez, de le rayon à l'étoile et la densité électronique. En couleur, vous avez à la fois le delta T et le dm. Alors la mesure de dispersion, donc vous voyez, la mesure de dispersion doit être inférieure à cette quantité, ici le delta T. Donc ça nous permet de contraindre à une zone assez centrale ici et d'apprendre un petit peu plus, donc si c'est des chocs, est-ce qu'ils sont à quelle distance, etc. Donc là, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais toute cette contrainte-là permet d'être représentée, par exemple, dans ce diagramme, où on a le taux de naissance des mécanismes supposés et la durée de vie. Alors, par exemple, pour Messier 81, on sait que la durée de vie, elle est supérieure à un certain taux. La magnétar, elle a une certaine durée de vie, mais là, on sait qu'elle peut être au moins 100 000 ans supérieure à cela. Donc, M81, les contraintes qu'on a obtenues sont en vert ici, enfin vert marron. Ici, on a le soft gamma ray burst, ou du moins la magnétar que l'on a dans la Voie lactée, qui est parmi les plus fréquentes. Alors, ici, vous avez le nombre d'objets. Vous voyez que ce sont des droites ici qui représentent en fait le produit de la durée de vie et du taux de naissance, puisque le produit nous donne le N total. N, c'est le produit de ces deux-là. Donc vous avez ici en log 7.5, 5.5, 3.5, etc. Donc là, les moins nombreux sont en bleu. En bleu, c'est le répéteur 3. Les répéteurs sont très peu nombreux dans les sursauts FRB. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on s'imagine là. Et puis les diverses possibilités sont par exemple le merger de naines blanches qui sont très peu fréquentes. Il peut y avoir des gamma ray bursts longs. Il peut y avoir des fusions d'étoiles à neutrons qui sont bien plus abondantes que les naines blanches. Il peut y avoir des supernovae de type 1A. Le plus fréquent, ce sont les supernovae qui sont la fin de vie d'une étoile massive, un petit peu comme le crabe. À ce moment-là, vous avez des taux bien plus grands. Donc, tout ça, ce sont des possibilités qui peuvent donner des sursauts rapides et fermés. Alors, il y a des observations relativement récentes, 2021, qui ont été données par ce fameux répéteur. C'est le premier répéteur qui a été trouvé en 2012. Et on a observé 1652 sursauts de ce répéteur. C'est assez extraordinaire. Ils ont observé avec Chime pendant 47 jours, mais pas tout le temps dans la journée, donc 60 heures en tout, divisé sur 47 jours. Il y a même, dans une heure, 122 bursts dans la même direction, ce qui est extraordinaire. En fait, c'est très stochastique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des bursts très très fréquents pendant quelques jours, puis pendant 10 jours, il n'y a rien du tout. Donc, ce n'est pas très pratique pour observer, on peut très bien être bredouille pendant longtemps. Alors ici, vous voyez, en fonction du temps et de l'énergie, on s'est aperçu qu'il y avait une bimodalité, c'est-à-dire des sursauts à énergie faible et puis certains d'énergie plus importante dans toutes ces 1652 bursts. Donc ça commence à être des statistiques intéressantes. Alors le fait qu'il y ait deux énergies que l'on a reportées ici, donc une probabilité d'avoir une faible énergie qui a une courbe typique de log normal, c'est-à-dire complètement un phénomène stochastique, et puis une autre qui est une loi de puissance. Et donc, on a certainement deux phénomènes à l'œuvre, peut-être deux mécanismes de rayonnement ou deux sursauts en énergie à découvrir. Pour l'instant, c'est une indication des observations, mais on ne sait pas encore l'interpréter en théorie. Lorsque les sursauts ont lieu la même journée ou même dans la minute, vous avez une bimodalité aussi en intervalle qu'il faut attendre pour avoir l'autre burst. Ici, vous avez un milliseconde, et ici, vous avez 70 secondes, le pic à 70 secondes, qui est pour les énergies faibles. Pour les énergies fortes, vous avez la courbe plus en gras, qui vous donne 220 secondes ici. Donc, tout ceci sont des informations qui vont orienter vers un processus donné. Alors, une information, par exemple, c'est que la mesure de dispersion ne varie que très peu. Et ça ne marche pas trop pour les masers synchrotrons, par exemple, car on s'attend à avoir des masers synchrotrons à différentes distances, donc la DM devrait varier, puisque vous ne rencontrez pas la même colonne de densité d'électrons sur votre ligne de visée. pour le rayonnement courbure qui a lieu très près de l'étoile à neutrons, ça marcherait mieux. Donc finalement, vous voyez que ça peut distinguer entre les mécanismes ou les sources de rayons. Alors il y a d'autres modèles qui ont été proposés, donc je n'en ai cité que quelques-uns, mais il y en a tellement qu'il y a un site web qui cite tous ces modèles. J'en ai compté 52 dans la liste. Selon, évidemment, il y a plusieurs catégories. Il peut y en avoir qui sont répéteurs ou non, donc ceux qui sont basés sur un astre durable qui émet des répétitions, ou alors un cataclysmique. Il peut y avoir différentes sources de rayonnement. Donc j'en ai cité deux, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Et puis ceux qui sont alliés à d'autres longueurs d'onde. Alors là, souvent, on a des sursauts gamma aussi qui correspondent à ces sursauts. Donc on le verra dans les deux exposés suivants, où on parlera des sursauts gamma. Et puis, il y en a d'autres. Alors on va parler aussi d'astéroïdes et de comètes qui peuvent tomber sur une étoile à neutrons et faire des sursauts. Ça a été déjà proposé il y a un certain temps, et peut-être certains objets, tous les FRB ne sont pas dus au même mécanisme, et il peut y en avoir quelques-uns dus à ces astéroïdes. Alors il y a aussi évidemment des périodes, pas seulement des périodes de rotation d'une étoile à neutrons, mais aussi des périodes comme 16 jours ou des périodes vraiment régulières, pas du tout stochastiques. Alors ça, c'est très facile à interpréter, enfin très facile. On suppose qu'il y a un compagnon et qu'il s'agit de la période orbitale du compagnon, mais ce n'est pas automatique. Parfois, on ne le voit pas, évidemment, le compagnon. Certains ont proposé que lorsque vous avez un sursaut, un faisceau de particules chargées envoyé dans une direction, elle n'est pas forcément envoyée dans une direction symétrique par rapport à la rotation ou au champ magnétique. Donc vous allez créer une anisotropie et une précession, donc précession du lobe d'émission. Et cette précession peut être de 16 jours. On va voir qu'avec les astéroïdes, il y a une autre explication pour cette période. C'est ce fameux répéteur, FRB 1809, qui a été observé avec une période de 16 jours très régulière. Donc les modèles qui sont le plus fréquemment simulés, ce sont les modèles où vous avez une fusion d'étoiles à neutrons. Alors vous voyez la simulation en hydrodynamique magnétique et prenant en compte la relativité générale. Donc c'est relativement complexe ici. Qui était faite de la fusion de deux étoiles à neutrons. Vous voyez un peu les temps qui sont 7 millisecondes, 14, 15 et 26. C'est vraiment des millisecondes qui correspondent d'ailleurs aux ondes gravitationnelles qui ont été détectées. Vous savez qu'en 2017, on a détecté les ondes gravitationnelles qui correspondaient à cet événement-là. Et vous avez le champ magnétique en vert qui est tel que vous allez ensuite engendrer un G qui va être la source du FRB. Donc là, on sent qu'on peut avoir quelque chose qui correspond à la durée et à ce qu'il faut. Ou alors, un magnétar, là, c'est pour les répéteurs, ce qu'on a déjà un peu discuté avec des ondes d'Alven qui recréent des sursauts d'énergie qui peuvent rendre une certaine région tout à fait cohérente et une émission de courbure cohérente. Alors, il a été aussi calculé une émission cohérente lorsque une des deux étoiles à neutrons qui sont en interaction dominent, c'est le champ magnétique. Vous avez une étoile magnétar, par exemple, qui va dominer 100 ou 1000 fois plus l'autre champ magnétique. Donc vous allez avoir un modèle unipolaire ici. Et imaginez que dans une région ici, vous pouvez avoir un rayonnement de courbure cohérent dans une région très petite, de l'ordre de centimètres ou moins. Alors il est facile de comparer un petit peu pour savoir combien de fusions vous avez parmi les FRB, les nombres, les fréquences observées. Alors, on a observé ce genre de fréquence-là par milliards de parsecs cubes par an, 3000, ou bien alors par millions de parsecs cubes par million d'années, ça revient au même, 2,8, vous voyez, c'est assez important. C'est basé sur le fait que si on pouvait regarder tout le ciel, on aurait par jour 1000 sursauts FRB. Tout le ciel, on va pouvoir le faire avec SKA, donc c'est assez intéressant. Alors on peut le comparer au nombre estimé de fusions étoiles à neutrons, trous noirs. Alors ça, c'est très petit, 10 fois inférieur. Donc les trous noirs ne doivent pas être, ils sont pas très prenants. Par contre, les étoiles à neutrons, C'est très variable, hein, le taux est très variable, mais ça pourrait correspondre à une fraction significative des sursauts FRB. Ça, c'est quelque chose qui a été estimé relativement récemment, donc on connaissait un tout petit peu plus les fréquences. On en a un petit peu recalibré avec toutes les ondes gravitationnelles, les événements d'ondes gravitationnelles qui ont été observés. Les étoiles à neutrons, on n'en a pas vu beaucoup encore. On a vu beaucoup de fusions de trous noirs, mais pas beaucoup. Mais ils sont beaucoup plus difficiles à observer. Donc il faut recalibrer en fonction de ce qu'on sait sur la visibilité de ces fusions d'étoiles à neutrons en ondes gravitationnelles. Donc voici un petit peu le schéma que l'on peut penser aujourd'hui. On a vu cette étape-là, hein, en 2017, on a vu les ondes gravitationnelles de deux étoiles à neutrons. On a vu que soit le résultat, c'était un trou noir peut-être avec de la matière ordinaire autour, un disque d'accrétion, donc quelque chose qui va être lumineux. Et en effet, dans l'événement de 2017, on ne sait même pas trop si on a fini avec une étoile à neutrons vraiment ou qui est devenue un trou noir ou le contraire, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, on a vu beaucoup d'événements lumineux en ondes électromagnétiques, que ce soit bleu, rouge ou même en radio. Le radio est beaucoup plus loin. Vous voyez un petit peu le modèle ici. Et on a détecté ça des années après, c'est-à-dire en 2020-2021, par rapport à 2017. Donc très, très, très rapidement, on a eu le gamma ray burst, en même temps que les ondes gravitationnelles, à la seconde près. Par contre, tout le reste s'est un peu décalé en fonction de la longueur d'onde. Alors, j'ai parlé de pulsars et d'astéroïdes. Je vais décrire un tout petit peu les modèles qui ont été proposés donc par Dai et al, qui se basaient déjà sur une petite simulation de Kolgat et Petchek en 81. Alors, à l'époque, on n'avait pas encore détecté les FRB, mais on pensait que peut-être il y avait des étoiles à neutrons qui étaient autrefois des étoiles qui avaient explosé en supernovae et qui avaient gardé leur système de planètes ou d'astéroïdes autour de leur plan d'écliptique, si on peut dire. Ou alors, ça venait d'un compagnon qui est toujours une étoile normale. Mais il est possible, d'ailleurs, les premières planètes extrasolaires, on les a découvertes autour d'un pulsar. Donc, c'est possible que le pulsar garde ses planètes et ses astéroïdes. À ce moment-là, lorsqu'un astéroïde arrive très proche de l'étoile à neutrons, vous voyez qu'il y a des forces de marée très importantes qui vont déformer. C'est un petit peu le même phénomène que la crêpe stellaire, d'une étoile qui arrive près d'un trou noir et qui est tellement déformée que ça devient une crêpe. Donc votre astéroïde, là, qui avait une petite forme classique, soit une sphère, soit une patatoïde, va être déformé de façon très fine. Il va rentrer donc dans l'étoile avec un champ magnétique très très fort, et donc il va être, les particules chargées vont sortir, vont être accélérées, et émettre ce rayonnement de courbure, toujours le même. On a des champs de bec courbe et puis des champs électriques qui vont être engendrés avec une émission cohérente. Donc il est possible qu'un astéroïde qui rentre dans une magnétosphère d'étoiles à neutrons puisse produire ce mécanisme de courbure cohérente. Un autre modèle a été proposé par Motez et Zarka, plus sur les ondes magnétosoniques. Ils se sont basés un peu sur ce qu'ils connaissaient sur Jupiter, en fait, où il y a ce phénomène, pas d'onde de choc, mais d'onde magnétosonique. Donc vous avez des ailes d'Alven ici, et des ondes radio qui sont émises dans cette direction, avec peut-être des sursauts, selon l'observation sur la ligne de visée. Alors ça, c'était en 2014, et récemment, ils ont un peu amélioré leur modèle, le voisin et Thal, c'est le même groupe. Alors, en supposant cette fois, par exemple, ils ont essayé d'expliquer ce fameux répéteur qui a une période de 16 jours, en supposant qu'il y avait un compagnon, mais que le compagnon ne tournait pas en 16 jours, mais en 49 jours. Et ce qu'on voyait, en fait, les sursauts, c'était lorsque les astéroïdes, alors ça, c'est vraiment inspiré par ce qu'on sait du système solaire, où on a des Troyens, des Grecs, etc. Alors, par des résonances, vous avez accumulation d'astéroïdes dans des régions bien données. Les résonances sont dues à l'interaction entre, par exemple, le pulsar et le compagnon, qui vous fait des résonances. Donc, en prenant cette analogie, ils ont des îles d'As, enfin, trois points de Lagrange ici. Et à chaque fois, donc, si vous avez un facteur 3, vous pouvez penser que vous aurez des sursauts le tiers de la période et que la période serait 49 jours. Alors personne ne peut le dire, personne n'a vu le compagnon de toute façon, donc il est possible de faire ce modèle-là et de supposer que l'on a ces sursauts. Alors en effet, ce qui est vu par Chime, c'est cette période-là, de tous les 16 jours, et 16 jours pourraient correspondre au tiers de la période. On a aussi pas mal, sur 700 jours, on a vu les rayons X dans le passé, hein, puisqu'on a découvert plus récemment, on a vu toutes ces fenêtres de rayons X et de sursauts radio qui correspondent bien à cette phase du 16 jours. Et enfin, il y a aussi un autre phénomène, c'est un phénomène d'écho, donc c'est tout à fait arbitraire. Lorsqu'il y a un écho, une réflexion, on a l'impression d'un rayonnement qui va à une vitesse apparente plus grande que la vitesse de la lumière. C'est le phénomène superluminique des échos. Et là, ça irait à 15 000 fois la vitesse de C. En regardant un peu l'ordre de grandeur qu'il fallait mettre à leur compagnon du pulsar, on a un compagnon qui fait à peu près un millième de l'étoile, un neutron. Donc c'est un peu comme le système solaire, vous avez Jupiter qui fait un millième. C'est comme une naine brune, en quelque sorte. Et puis, on peut supposer qu'il y a une turbulence autour des astéroïdes pour avoir des sous-pulses et avoir une décroissance en fréquence des sous-pulses. Alors, est-ce que ces astéroïdes survivent ? Et à combien vont survivre des Troyens ou de leur groupe d'astéroïdes ? Ils ont fait le calcul pour savoir si on pouvait rayonner à un corps noir. Un corps noir rayonne comme sigma T4. Et est-ce qu'ils vont dépasser la température critique pour que même les matériaux, disons les grains de poussière et l'olivine, la serpentine, tout ce que vous avez dans les astéroïdes, est-ce que ça va dépasser la température des matériaux réfractaires ? Eh bien, pas vraiment. C'est-à-dire que même si vous êtes à 0,3 AU, la luminosité que reçoit l'astéroïde du pulsar, il va être inférieur à ce qu'elle peut rayonner. Donc si elle rayonne plus que ce qu'elle reçoit, elle ne va pas dépasser la température maximum, sauf quelques-uns, mais la plupart ne sera pas complètement évaporée. Donc vous pouvez garder vos astéroïdes. Et puis j'en finirai avec une contrainte qui a été aussi utilisée par Krochak et Kovets récemment, en disant que ces FRB sont aussi très utiles pour contraindre sur la ligne de visée les lentilles gravitationnelles et donc peut-être les trous noirs primordiaux. Vous savez que la matière noire a plusieurs candidats, les trous noirs primordiaux en étaient quelques-uns, et dans une expérience un petit peu comme qui a été faite par Macho et Eros dans les années 90-2000, on avait regardé les nuages de Magellan et regardé s'il y avait des effets de lentilles gravitationnelles dus à ces éléments compacts et complètement invisibles. Eh bien, avec tous ces FRB, lorsqu'il y en aura beaucoup, on pourrait, voici une simulation, voir les échos, parce qu'en fait, la lentille gravitationnelle vous fait deux événements, deux images, donc vous attendez à avoir des échos, donc il y a certains candidats qui seraient déjà dans les FRB trouvés, mais lorsqu'on en aura beaucoup, on pourra savoir et mettre une contrainte, en fait. Donc on a déjà des contraintes, hein. Ici c'est la contrainte qui est la fraction de trous noirs primordiaux sur la matière noire totale. On a déjà beaucoup de contraintes qui ont été données par ces expériences-là, mais pour les masses 10 à 100 masses solaires, on pourrait encore contraindre la matière noire, du moins éliminer complètement les trous noirs primordiaux. Donc, en résumé, on sait qu'on a quand même un grand nombre de sursauts observés, on en aura encore beaucoup plus avec SKA, ça va contraindre beaucoup les modèles. On sait qu'il doit exister plusieurs mécanismes, soit cataclysmiques comme les blizzards qui détruisent leur objet, soit des magnétars qui ont des répétitions et qui sont durables pendant des milliers d'années. Les mécanismes de rayonnement, Maser synchrotron, qui est toujours possible, qui représente une partie de rayonnement, ou la radiation de courbure cohérente. Enfin, on a un magnétar dans la Voie lactée, mais il est associé à des étoiles jeunes, et ce n'est pas la majeure partie des cas, puisqu'on a vu que la majeure partie des cas était associée à des étoiles vieilles. Donc c'est la plus grande des populations. Donc l'avenir nous dira si les mécanismes sont vraiment efficaces. Merci beaucoup.